Radio Grenouille est en direct des Grandes Tables. C'est les 10 ans des Grandes Tables. Voilà, 10 ans que les Grandes Tables sont installées ici à la Friche Belle de Mai. Et donc, eh bien, à l'occasion de ces 10 ans, c'est une série de rendez-vous qui est proposée avec le public marseillais, dont... eh bien aujourd'hui un marché paysan exceptionnel, agrandi, ouvert et qui va se prolonger jusqu'à 23h. C'est l'occasion pour nous de faire une émission en direct des Grandes Tables. Pendant une heure, on se demandera si ce 21e siècle sera paysan. En effet, si le 20e aura été celui de la destruction de la paysannerie par l'agriculture industrielle, le 21e, lui, semble hésiter entre une fuite en avant par les moyens de la technologie ou le retour des paysans, y compris à la ville. Alors qu'en est-il de cette riposte des paysans ? Hésitation effectivement entre deux chemins, celui de poursuivre le chemin de la marchandisation et de la financiarisation généralisée de la nature au nom du développement et de la lutte contre la pauvreté par exemple, avec ses conséquences, spoliation et destruction des terres agricoles, libéralisation accrue des échanges, qui donne aux fluctuations du marché le pouvoir de fixer les prix des aliments, un chemin qui est celui du contrôle des processus de production et de commercialisation des aliments, qui conduit eh bien, à la destruction des paysans et de la paysannerie via la perte de leur autonomie, de leur savoir-faire, remplacée par une science agronomique de plus en plus présente. Pensons par exemple au cas emblématique des semences. On parlera d'ailleurs tout à l'heure du cas du purin d'ortie. C'est aussi ce chemin-là, le chemin de la disparition des terres agricoles fertiles. Mais un autre chemin est possible à partir d'une rupture avec le concept de développement et son double de sous-développement pour en finir avec cette idée qu'un pays moderne développé est un pays sans paysans. Ce chemin-là, ce chemin de la rupture, ne serait plus celui d'une approche exclusivement scientifique de la nature et économiste, la nature comme stock disponible, comme ressource, mais plutôt peut-être une approche culturelle. Ce chemin serait celui de nouvelles formes d'échanges fondées sur des circuits courts d'approvisionnement, comme les AMAP, un chemin fait de transmission de savoir-faire, un chemin vers l'autonomie dans les processus de production, garantissant la pérennité des équilibres, un chemin déjà ouvert par des paysans rebelles organisés comme Via Campesine, par exemple, le plus important mouvement à l'échelle de la planète, ou le mouvement des sans-terres créé en 1984 au Brésil. 350 000 familles aujourd'hui vivent sur les terres que ces mouvements a récupérées. Hésitation donc entre l'hyper-industrialisation de l'agriculture d'un côté et une transformation sociale fondée sur des agricultures paysannes. 58 minutes pour en discuter avec nos invités Sylvia Pérez-Vitoria, qui est sociologue, économiste et documentariste. Elle a réalisé des films documentaires sur les questions agricoles et paysannes aux États-Unis, en Espagne, en France, au Mexique, en Roumanie, en Érythrée, au Nicaragua. C'est dire donc s'il a une vision globale de la question. Elle collabore notamment à l'Écologiste et au Monde diplomatique. Bonjour Vitoria.
Bonjour.
Et puis vous avez également publié un certain nombre d'ouvrages dont Les paysans sont de retour, un essai publié aux Actes Sud en 2005 et puis plus dernièrement Manifeste pour un 21e siècle paysan aux éditions Actes Sud. Et vous l'avez entendu dans ma présentation, nous sommes beaucoup appuyés sur vos écrits pour préparer cette émission. Également avec nous, Jean-Christophe Robert, qui est fondateur et directeur de Filière Paysanne, association indépendante marseillaise qui agit pour une agriculture et une alimentation locale, dont notamment le circuit des épiceries paysannes. Bonjour Jean-Christophe Robert.
Bonjour à toutes et tous.
Également avec nous, Augustin Tempier, cofondateur du projet Terre de Mars dans le quartier de Sainte-Marthe à Marseille. Un projet d'agriculture urbaine lancé en 2015 par des anciens élèves de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles à Marseille. Bonjour Augustin.
Bonjour.
Merci à vous de venir sur ce plateau. Nous sommes ensemble pendant une heure. Merci au public de venir nous écouter. Il y aura ensuite avec vous une discussion au terme de cette émission, une discussion d'une demi-heure avec les invités. Peut-être ma première question, histoire un petit peu de préciser de quoi nous allons parler, Sylvia Pérez-Vitoria, je vais y arriver. Sylvia, vous faites une différence entre paysan d'un côté et puis, disons, agriculteur, exploitant agricole de l'autre.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette différence et en quoi elle est importante?
Oui, il y a une différence. Bon, j'ai même écrit un livre pour essayer d'expliquer la différence. Il y a des débats là-dessus. Mais disons, les valeurs et la manière de travailler, l'organisation d'une agriculture paysanne est très différente de celle d'une agriculture industrielle. Je vais vous donner quelques exemples. Un paysan, d'abord, il mange ce qu'il produit, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la plupart des grands producteurs industriels qui sont spécialisés dans une production et qui vont, en général, acheter leur alimentation comme n'importe qui dans les magasins. Ensuite, les paysans sont plutôt du côté de ce que la nature donne de gratuit. La nature donne énormément de choses et à l'origine, l'agriculture, elle vivait de la nature. Et la modernisation, l'industrialisation de l'agriculture, comme vous l'avez bien expliqué, c'est passer de la nature au marché. Et donc, le paysan, c'est celui qui, par ses savoir-faire et ses connaissances, va pouvoir être au maximum autonome du marché. Ne pas dépendre du marché, mais dépendre pour ses intrants, fabriquer ses intrants, dépendre le moins possible, avoir une forme d'autonomie qui lui permet justement de pouvoir maîtriser sa production, ce qui n'est pas le cas d'un agriculteur industriel qui, lui, va dépendre totalement du marché pour ses intrants, pour ses débouchés. Il va dépendre des prix du marché, en général des marchés internationaux. Donc c'est tout à fait une autre logique. Les paysans, dans l'histoire, ils sont plutôt du côté de l'usage que de la propriété de la terre, par exemple. Ils ont des savoir-faire locaux qui connaissent, qui se sont transmis, alors qu'un agriculteur industriel, en général, il va appliquer des savoirs élaborés par des experts dans des instituts d'agronomie, etc. Il y a toute une série de... Les paysans sont plutôt dans l'entraide, les agriculteurs industriels sont plutôt dans la compétition. Donc voilà, il y a toute une série de caractéristiques. En sachant bien qu'il n'y a pas d'idéal type, il n'existe pas des paysans purs et puis il y a des situations intermédiaires, c'est la majorité des cas. Mais voilà, c'est les tendances.
Jean-Christophe Robert, filière paysanne, c'est une filière qui regroupe des paysans ou aussi, vous employez-vous le terme d'agriculteur. Comment, par rapport à ce que propose Sylvia Pérez-Vitoria, cette différence assez importante parce qu'elle permet aussi de savoir de quoi on parle, vous vous y retrouvez dans cette différenciation que propose Sylvia ?
Alors du coup, deux questions, deux réponses. Première question, on est plus un réseau de consommateurs et d'acteurs des circuits courts, en fait des épiceries paysannes notamment. Donc on est plus sur le fait d'organiser l'écoulement des produits issus de l'agriculture paysanne. Et du coup, deuxième réponse, effectivement on est plus ancré dans une agriculture de type paysanne, donc c'est-à-dire une agriculture qui est plus une agriculture autonome, hein, notamment par rapport au fait qu'on tire du vivant les moyens de production, plutôt que de les tirer des énergies fossiles, on va chercher des énergies fertiles. Et donc, on s'inscrit dans cette logique-là, plus qu'une agriculture intensive de capitaux, même si elle existe, même si on sait qu'il faut aussi composer avec et l'accompagner vers une agriculture beaucoup plus durable. C'est quand même dans cette option, in fine, qu'on a envie de faire avancer notre petit réseau.
Augustin Tempier, je disais en introduction que vous êtes un ancien élève de l'école de paysage Versailles-Marseille. Et vous voilà engagé dans un projet d'agriculture. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que vous pouvez nous parler de comment on passe de l'école du paysage à un projet d'agriculture ? Est-ce que cela sous-entend que votre approche du métier de paysan, et c'est aussi un métier de paysagiste ?
Alors oui, en effet, le paysagiste en soi est un agriculteur du paysage, est une personne qui conçoit et crée du paysage. La passerelle entre le paysage et l'agriculteur s'est faite pour nous un petit peu dans l'action, où on a voulu tout d'abord essayer de faire autre chose, de cultiver le sol. Et l'agriculteur est un jardinier du grand paysage. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est... on ne voulait pas rentrer dans un modèle de bureau d'études, de conception classique. On a voulu faire par nos mains, par des envies connues, communes qui nous regroupent, que sont le travail du sol, l'envie de bien faire, de produire, surtout localement, pour essayer de revenir à un peu des fondamentaux dans lesquels on n'a pas grandi, que nos parents ne nous ont pas transmis, mais que par la suite, à travers notamment cette école, on a appris. Donc aujourd'hui, on est agriculteur, on n'est pas vraiment agriculteur, on est quand même paysagiste, on est paysagiste-agriculteur, mais dans notre démarche... on essaie vraiment de penser l'espace en reprenant possession des terres, en les revalorisant, en les redynamisant, afin de montrer que l'agriculture crée du paysage, crée un cadre de vie qui est le cadre de vie de l'espace commun, l'espace à tous, qui fait partie de notre quotidien et qui est vraiment un fondamental que l'on a perdu de plus en plus, je trouve, au XXe siècle, surtout à Marseille. Et les possibilités aujourd'hui pour y revenir sont très faibles. Et donc nous œuvrons vraiment pour la valorisation de ces espaces qui créent du paysage.
Sylvia Pérez-Vitoria, on entend Augustin Tempier qui se dit paysagiste, agriculteur. Est-ce que c'est cela aussi ce que vous avez un peu nommé comme les nouveaux paysans ou néo-paysans ? C'est-à-dire, voilà, il y a aussi la réinvention. Est-ce que c'est ça aussi, ces néo-paysans ? Est-ce que c'est d'ajouter un terme à paysan ceci ou paysan boulanger, par exemple, ou paysagiste paysan ? C'est cela ?
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, à l'image traditionnelle des paysans qu'on a toujours qualifiés de routiniers, de répéter toujours les mêmes choses, etc., les paysans ont toujours expérimenté, ont toujours innové dans plein de domaines. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, par rapport à... Ils se sont adaptés à des circonstances, à des situations actuelles pour survivre, justement, et pour pouvoir vivre. Et donc, ils ont mis en place des systèmes qui leur permettent à eux de maintenir leur autonomie contre un système industriel qui tend à les détruire. Et donc, effectivement, les paysans boulangers, les circuits courts, les semences paysannes, essayer de récupérer des savoirs, c'est toute une série de stratégies. Les paysans ont toujours eu des stratégies très diversifiées pour survivre et pour se maintenir. Et donc, selon les pays, selon les endroits, on assiste à des stratégies différentes et en particulier, effectivement, des nouvelles formes qui n'existaient pas dans le passé parce qu'il y a toute une réflexion, une analyse, justement, en particulier, on en parlera, due à ces mouvements paysans.
Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer un petit peu aussi à parler de la place et de la fonction des paysans dans notre société. Est-ce qu'elle est uniquement une place, une fonction nourricière, celui de nourrir, ou est-ce que c'est plus large que cela ?
Mais je pense que justement, je reviens sur ces mouvements paysans, le fait que ces mouvements paysans se soient organisés à l'échelle internationale, les questions qu'ils posent vont beaucoup plus loin. D'abord, ils ne sont pas du tout corporatistes, il ne s'agit pas simplement de gagner des parts de marché, etc., mais posent les questions fondamentales de qu'est-ce qu'on fait de nos milieux naturels, qu'est-ce qu'on fait de nos terres, est-ce que des terres agricoles, elles doivent être transformées en, je ne sais pas quoi, autoroutes, aéroports, etc., ou est-ce que vraiment on doit les maintenir ? La question de l'emploi. On a 5 millions de chômeurs. Si on avait une agriculture beaucoup plus diversifiée, avec beaucoup plus de travail et moins de capital, ça donnerait du travail. Il y a des jeunes qui veulent s'installer. Qu'est-ce qu'on fait du foncier ? La question de la santé. Quel type d'agriculture ? L'agriculture est liée aussi à l'agriculture industrielle, on le sait de plus en plus. Les pesticides, c'est un problème, mais même les aliments transformés, avec la quantité de produits chimiques qu'on y met, la chimie dans l'agriculture, c'est un véritable problème. Ça détruit les milieux naturels, mais ça détruit les gens aussi. Donc on s'aperçoit qu'à travers l'agriculture, on interroge notre société sur ses fondamentaux et qu'autour de ça, on doit mener une réflexion, une vraie réflexion de choix de société.
Augustin Tempier, justement, par rapport à votre projet Terre de Mars, vous êtes installé dans une bastide au mât des Gorguettes, c'est cela, hein, dans le quartier de Sainte-Marthe. Je crois que c'est 11 hectares. Et il y a aussi derrière ce projet-là, de vous installer là, il y a aussi de sauver, d'une certaine manière, des terres qui sont soumises à des pressions foncières forte. Je crois qu'il y a dans ce projet-là l'idée aussi de sauver ces terres, concrètement de les arracher à la pression foncière immobilière.
C'est ça. Dans notre projet, ce qu'on essaye de montrer, c'est que une activité paysanne locale est possible. Ce qui est intéressant d'un point de vue urbain, ou plutôt des formes urbaines, c'est qu'on occupe une bastide. Donc une bastide, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle urbain très récurrent à Marseille et en Provence depuis le XVIIe siècle. C'est un espace de villégiature, mais également un espace productif. En fait, c'était à l'époque les armateurs, tous les négociants qui ont fait fortune avec le grand port autonome de Marseille, qui ont investi leurs capitaux fonciers dans la pierre, donc dans la campagne marseillaise. Ils y allaient donc en résidence le week-end, en été, pour échapper un petit peu à la chaleur de la ville. Mais sur cet espace, qui était pas unique, qui était un espace privé, il y avait aussi un espace fermier, un espace paysan. Donc chaque bastide était adossée d'un corps fermier, où au sein de cette bastide, qui faisait entre 1 hectare à plus de 50 pour les plus grands à Marseille, ça fonctionnait en autarcie. Donc il y avait déjà au niveau social un modèle autarcique où il y avait plusieurs dizaines de familles paysannes et bourgeoises qui travaillaient au sein d'un même endroit, mais également une production extrêmement locale, rendue possible à Marseille à partir de la fin du 19e grâce à l'avènement du canal de Marseille, qui permettait à la fois donc, une production très locale sur l'ensemble de tout le bassin méditerranéen, le bassin marseillais, pardon, et à la fois donc, une consommation locale. Donc, dans notre cas, c'est vraiment la réactivation d'un patrimoine bastidaire qui, pour le Mas des Corguettes, est un des rares derniers parmi quelques dizaines de bastides, surtout à Sainte-Marthe, qui est encore un bastion de l'agriculture ou du potentiel agricole marseillais, où depuis les années 60-70, l'agriculture est en déprise totale, et 40 ans plus tard, on recultive des terres en friche, qui sont d'ailleurs très riches, qui sont excellentes, et on adapte un petit peu ce modèle bastidaire d'époque à des enjeux de société nouveaux pour répondre vraiment à des demandes de produits locaux, de paysages, parce qu'en remettant en culture, on évite ou on essaie d'éviter l'urbanisation massive en ayant une activité économique sur place qui génère beaucoup d'aménités économiques, de paysages, de sociétés où on essaie de créer de l'échange. Dans notre action, on a vraiment une démarche militante pour dire l'agriculture est possible. Il faut l'aider, il faut se lancer. Nous, on est jeunes, on a envie de dire aussi aux jeunes, on a entre 25 et 27 ans. N'ayez pas peur de vous lancer là-dedans, il n'y a pas de sous-métier. C'est un magnifique métier et on crée vraiment de grands espaces. On permet la pérennisation de grands espaces et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà.
Sylvia, vous avez parlé des grands mouvements. On peut penser au mouvement des sans-terre, mais on peut penser aussi au mouvement des zapatistes, par exemple. Je disais tout à l'heure, Via Campesina. Mais en France, finalement, quand on y regarde un peu de près, l'un des mouvements les plus importants ces dernières années et qui persiste, finalement, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est la ZAND et de la ZAD. Et c'est un mouvement paysan, pas que, mais d'ailleurs avec une association assez intéressante d'une partie de la population, d'une gauche dite radicale en tout cas, ou en tout cas avec des formes un peu d'autonomie, s'associant avec des paysans. C'est cela aussi, c'est qu'aujourd'hui on a le sentiment que les grandes transformations sociales, elles viennent du monde paysan.
Oui, alors il faut rappeler quand même qu'il y a eu le précédent du Larzac, où pareil, il y a eu aussi une lutte pour des terres qui devaient être un terrain militaire et où il y a eu une alliance entre des paysans et des jeunes qui venaient à l'époque de mai 68 et qui ont réussi à conquérir quand même ces terres. Et je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience justement que les terres agricoles sont vraiment en danger. Et donc, que toutes les infrastructures, ce qu'il faut se rappeler, il faut rappeler aussi que toutes ces infrastructures, elles sont liées à cette espèce de religion du libéralisme, c'est-à-dire que la richesse se fait uniquement par les échanges, que la richesse, ça se fait par les marchés internationaux, et donc on fait des aéroports, ailleurs on va faire des barrages, ailleurs on va faire des chemins de fer. Donc il y a petit à petit une prise de conscience, cette inscription sur le territoire de cette espèce de libéralisme effréné, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, c'est-à-dire cette croyance religieuse que la richesse, moi je suis économiste, et la richesse elle vient pas de là, c'est un mythe, c'est une fabrication idéologique qu'on nous impose. Et donc petit à petit les gens commencent à se rendre compte, à la fois la relocalisation de la production et des achats, et puis le fait qu'on s'aperçoit qu'au nom de ce libéralisme on prend des terres agricoles, ça me paraît quelque chose de très significatif d'une évolution sociale effectivement.
Augustin Tempier, vous n'avez pas forcément répondu directement à ma question tout à l'heure, mais alors je reviens, est-ce que ce projet Terre de Mars d'une certaine manière est une zone à défendre, c'est-à-dire un terrain à défendre pour l'agriculture contre eh bien, des formes de prise en main de ce territoire pour des projets immobiliers.
Alors, dans le cas de l'espace qu'on cultive, le Mas des Gorguettes, on est sur un terrain privé qui, par chance, est hors des zones d'urbanisation actuelles, c'est-à-dire qu'à Marseille, il y a une limite franche pour l'heure actuelle qui a été délimitée entre le nord du canal de Marseille et le sud du canal de Marseille. Donc cet espace est au nord du canal, donc actuellement, il n'est pas urbanisé. Peut-être pour les 20-30 prochaines années, un jour, peut-être il sera à vocation à être urbanisé. D'ici là, je pense qu'on a le temps de faire nos preuves, de vraiment monter un système autonome, dynamique, de ferme urbaine, qui génère, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs aménités pour la ville. Donc je pense que aujourd'hui, la ville ne nous soutient pas, mais on a vraiment dans la volonté qu'un jour, la ville aura besoin de nous, parce que on a besoin des terres agricoles. Il y a une prise de conscience générale, comme vous l'avez dit, sur que vraiment on est en train d'avoir de moins en moins d'espaces agricoles, et que dans les consciences, petit à petit, il y a vraiment cet engouement et cette prise de conscience pour dire attention, il faut maîtriser l'urbanisation, mais on n'y est pas encore.
Jean-Christophe Robert, avec Filière Paysanne, je crois que vous luttez pour la préservation des terres agricoles hein, au niveau local et national. Je crois que vous avez même édité un manifeste hein, autour de cette question-là. J'imagine que vous connaissez le projet Terre de Mars. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu à travers Filière Paysanne, comment vous vous y prenez pour mettre en place une sorte de plan de sauvegarde aussi, d'une certaine manière, de ces territoires agricoles fertiles? Il faudrait peut-être préciser le terme fertile, parce que tous les terrains ne sont pas nécessairement et forcément fertiles. Jean-Christophe Robert.
Alors déjà, avant de répondre, si vous le permettez, je répondrai bien à la question que vous posiez tout à l'heure à Sylvia. Est-ce que les paysans ne sont là que pour nous nourrir? Alors déjà, le fait qu'ils nous nourrissent, c'est énorme. C'est vraiment, je pense, quelque chose pour lequel il faut qu'on sache leur rendre grâce au quotidien, parce qu'effectivement, c'est vraiment du boulot de faire sortir de la terre tout ce qui nous nourrit au quotidien. Et au-delà du fait de nous nourrir, ils font beaucoup d'autres choses. Déjà, rien que dans le terme de paysan, il y a le pays. Et donc, on dit pas de pays sans paysan. C'est vrai que ce sont eux qui sont, quelque part, la racine première de ce pays dans lequel on vit, qu'on estime comme étant peut-être naturel, alors qu'en fait, non, c'est le fruit d'un travail de génération et de génération, les bocages, les aménagements en restanque, les canaux. Tout ce qui a été quelque part façonné par leurs mains aujourd'hui est un patrimoine dont nous bénéficions et que nous détruisons malheureusement, hein, comme tu le disais Sylvia tout à l'heure, de manière extrêmement préoccupante. Donc au-delà même du fait de pouvoir quelque part nous alimenter, ils nous permettent d'avoir un pays qui est vivable. Quand on bétonne les terres, quand on accélère la circulation de l'eau, de ruissellement notamment, avec des intempéries violentes, on voit ce que ça donne. On l'a vu par exemple dans le 06, il n'y a pas si longtemps, des gens sont morts, il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes du fait de la brusque montée des eaux, parce qu'il n'y a plus de terre pour quelque part absorber ce flux. Il n'y a que du béton, et le béton tue aujourd'hui malheureusement. Donc pour revenir sur la question que vous posez, sur les actions que l'on fait au sein de Filière Paysanne, eh bien elles sont à la fois d'échelle locale et aussi d'échelle plus globale, parce qu'il faut essayer de travailler un petit peu à tous les niveaux. Donc localement, on essaye de soutenir économiquement les paysans pour qu'ils continuent à être viables économiquement, c'est-à-dire à pouvoir vivre de leur métier et du coup d'éviter qu'il y ait disparition des fermes agricoles, parce que de plus en plus de personnes finalement qui arrivent à la retraite aujourd'hui en tant qu'exploitants partent en fermant la porte derrière eux. Il n'y a pas de jeunes qui reprennent parce que les jeunes n'arrivent pas à travailler, à gagner leur vie. Donc si on développe des circuits courts comme aujourd'hui vous en trouvez, par exemple sur ce marché, comme vous pouvez en trouver sur d'autres marchés, sur les AMAP, comme vous pouvez en trouver sur les épiceries paysannes, sur les points de vente collectifs, quelque part on crée de l'avenir et on crée du devenir pour les paysans. Donc ça, c'est le premier acte effectivement sur lequel on s'investit pour pouvoir maintenir cette agriculture et donc ces terres. Ensuite, il y a une action qui est plus institutionnelle, c'est-à-dire auprès des élus. On est en train de travailler à la mise en place d'un projet alimentaire territorial avec la nouvelle métropole qui a été créée depuis le mois de janvier, ainsi qu'avec le Pays d'Arles, pour que l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, d'un côté Arles qui produit, de l'autre côté Marseille qui consomme, mette en place vraiment une politique d'aménagement, de préservation de ces terres agricoles. Et enfin, pour terminer, on travaille aussi à l'échelle nationale avec les copains de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens et d'autres, autour de ce manifeste pour la préservation des terres agricoles face au bétonnage, à l'épuisement et à l'accaparement. C'est un sujet dont on parlera peut-être, notamment en France, parce qu'effectivement, il faut que la société dans sa globalité...
Vous pouvez préciser peut-être.
Oui, l'accaparement, c'est le fait effectivement de racheter des terres de manière massive avec des capitaux, et notamment des capitaux chinois qui maintenant viennent acheter des terres en France, comme des capitaux français le font en Afrique. Et ça, voilà, ce n'est pas une exception. Donc du coup, effectivement, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation collective de tous. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce manifeste, vous allez sur le blog de Filière Paysanne et vous trouverez des éléments là-dessus.
On le mettra évidemment aussi en lien sur le podcast de l'émission, sur le site de Radio Grenouille. Jean-Christophe Robert, vous avez là précisé quelque chose d'assez important. De paysan, il y a pays, et vous avez précisé comment c'est aussi un soin, prendre soin du pays, c'est prendre soin d'une terre bien au-delà de la terre agricole, les canaux d'irrigation et ainsi de suite. Pourtant, Sylvia Pérez de Vitoria, il y a cette idée inscrite depuis maintenant les années 70 dans nos têtes qu'un pays développé, c'est un pays sans paysans.
Oui, c'est ce qu'on étudie en économie, absolument. En économie du développement, on étudie, on nous dit un pays sans paysans. Et d'ailleurs, je cite toujours le cas, quand les pays de l'Est sont rentrés dans l'Union européenne, la première chose qu'a dit la Commission européenne en ce qui concerne la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, c'est que 20% de paysans, c'était pas possible. Et donc, il fallait absolument réduire ce nombre de paysans parce que, franchement, c'était pas... Et on s'y attelait parce qu'effectivement, y compris l'accaparement de terres, il y a des agriculteurs français qui ont 10 millions de... Européens qui ont 10 millions de terres, d'hectares en Roumanie. L'accaparement des terres, ça consiste justement à chasser les paysans et à mettre de l'agriculture industrielle à la place.
C'est l'accaparement des terres qui, finalement, légitime cette idée ou ce discours de dire un pays développé, c'est un pays sans paysans.
Non, non, c'est l'idée, c'est toute la question du développement, l'idée d'une linéarité, qu'on passerait par des étapes et qu'il y a une étape paysanne, et puis après l'étape paysanne, il y a l'étape industrielle, après l'étape industrielle, il y a les services, maintenant on est dans le numérique, et les paysans, voilà, ça n'existe plus, ça n'a plus de raison d'être, on peut s'en passer, voilà. Ça, c'est vraiment l'idéologie dominante. Et dans le cas des pays de l'Est et dans le cas des pays du Sud aussi, c'est aussi la libéralisation qui a contribué à détruire des paysanneries locales.
On a parlé de la préservation des terres agricoles, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la question de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire. J'aimerais qu'on comprenne un petit peu c'est quoi la différence entre les deux, parce que c'est deux notions qui circulent un peu, voilà, parfois confondant l'un et l'autre. Et puis, ce sera l'occasion de parler de la question de cette souveraineté aussi alimentaire locale, avec le travail que vous entreprenez du côté de Filière Paysanne, Jean-Christophe Robert. Mais peut-être un petit peu, Sylvia Pérez-Vitoria, est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre, d'un côté, souveraineté alimentaire et, de l'autre côté, sécurité alimentaire ?
Moi, je vais vous épargner les définitions officielles, mais juste pour bien faire comprendre, la sécurité alimentaire, c'est une notion des Nations Unies, de la FAO, qui dit que chaque être humain dans le monde a le droit d'avoir une nourriture suffisante lui permettant de mener son activité. Donc quand on dit ça, on ne dit pas l'origine de la nourriture qui est fournie. Hein, c'est-à-dire, si vous êtes un pays très riche et que vous pouvez importer 100% de votre alimentation, vous avez votre sécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est une notion qui a été apportée par Via Campesina en 1996, à un contre-sommet de la FAO. C'est le droit des peuples à produire leur propre alimentation, le type d'alimentation qu'ils consomment et selon les pratiques culturelles qui sont les leurs. Donc vous voyez que c'est du côté de la production et le droit de produire. Alors ce qui suppose, je reviens, on va croire que je suis obsédée, mais je le suis un peu en ce moment, oui, effectivement, ce qui suppose effectivement de pouvoir protéger son marché, si on veut produire son alimentation au maximum. Voilà.
On parlera, après ce moment musical, des conséquences que cela aussi engage dans les mouvements, cette idée de la souveraineté alimentaire, notamment à certains endroits, la question des dissidences territoriales, par exemple.
Qu'est-ce que vous trouvez le plus important dans la vie ?
Le plus important ? Être libre.
passer partout, le béton sort de terre. Les cultures intoxiques, le murmure des rivières. Le monde s'organise, pourquoi faire, on ne sait plus. Mais on a rasé les talus et les bois ne sont plus. Le temps a passé sur la vie d'Angela. Le rendement à l'hectare sur l'amour de Mamboa. Le Roundup, la culture de produits sans saveur. Sur la fierté paysanne, le goût amer du labeur.
On n'arrête pas le progrès, c'est bien ça le problème. La planète est à genoux, on continue quand même. La science de Monsanto mise au service de l'homme. Les semences qu'on brevette et qui détruisent les sols.
Le temps a passé sur les vues d'Angela. Des nuées de tracteurs sur sa phobie des grandeurs. Les exploitants sur sa paysannerie. Et les emprunts sans fin sur ses petites économies. L'homme se nie dans le non-respect de la bête. Des bestiaux qu'on engraisse et ne voit même plus le jour. Les uns sur les autres, pataugeant dans la mer. Une décharge sur la tête marque la fin du séjour. Au fidèle compagnon, à la fierté de la maison. À la force de la nature, à sa vie, à son nom. Le temps a passé sur les larmes d'Angela. Quand le cheval de l'amour est parti cette année-là.
Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Pas un geste, pas un quart attendri pour le décor. Quand la science sert le profit, la technique fait des merveilles. Les chansons productives, mais tant pis pour les abeilles.
Le temps a passé sur le bon sens d'Angela. Et les hypermarchés sur les jours de marché. La mondialisation sur le gré saisonnier. Et l'humeur des marchés sur son ouvrage aux libertés. Un cri, un chant venu de la terre. D'une noblesse calleuse, pauvre à millions. Des bras de l'homme, de la grâce d'une mère. Du son de la tranche, de l'odeur des sillons. Un hommage à l'échange, au désir de transmission. Des savoirs à l'alphabet, nommé par l'instruction. Une ode à la vie, un hymne à la terre. Au futur de nos enfants, la mémoire de nos grands-pères.
Eh bien, tous les chants, c'était comme le chacun, c'était comme un vers du poème.
Et quoi, un oui. Jardin.
Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a abattu des talus? Il y a 3, 4, 5 champs dans le même champ. Aller chercher leur nom maintenant parmi tout ça.
Ce sont des enfants perdus, un
oui,
peu.
Oui, ma foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi.
Un cri, un chant venu de la terre. D'une noblesse calleuse, pauvre à millions. Des bras de l'homme, de la grâce d'une mère. Du son de la tranche, de l'odeur des sillons. Un hommage à l'échange, au désir de transmission.
Un chant venu de la terre, c'est un morceau d'Unité Mao Mao. Nous sommes en direct des Grandes Tables, c'est leur 10 ans, et nous nous posons la question de savoir si ce 21e siècle sera un siècle paysan. Nous sommes en compagnie de Sylvia Pérez Vitoria, sociologue, économiste et documentariste, de Jean-Christophe Robert, fondateur et directeur de filière paysanne à Marseille, et Augustin Tempier, cofondateur du projet Terre de Mars dans le quartier de Sainte-Marthe. Et puis vient de nous rejoindre au plateau Myriam. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Et Myriam, je crois que tu vas nous parler d'un cas, d'une situation, le Purin d'Orty.
En effet, en 1971, Georges Pompidou, toujours précurseur, crée le premier ministère de l'Environnement. Fin 2015, François Hollande annonçait la clôture de la COP21 et de ses accords de Paris. Entre ces deux dates, près d'un demi-siècle est passé. Où en est l'écologie de gouvernement depuis ? Au point mort. La plus grande réussite en écologie du quinquennat aura donc été la signature de ces accords de Paris, dont tous se sont gargarisés alors qu'ils sont en réalité non contraignants. Or, croire en la bonne volonté des chefs d'État mondiaux pour limiter les gaz d'effet de serre, c'est l'équivalent politique d'attendre sa lettre d'admission à Poudlard quand on est gamin. Au mieux, c'est mignon, au bout d'un moment, ça devient sérieusement inquiétant. Le français consciencieux peut se lancer dans un nouveau jeu, après chercher Charlie, chercher le député écolo. Vous ne le trouverez ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, le groupe s'est tout récemment dissous. Il joue à cache-cache. Ira-t-il à la présidentielle, malgré des scores de plus en plus ridicules au parti ? Aura-t-il Cécile Duflot comme candidate ? Non, elle est trop occupée à se chamailler avec le traître Jean-Vincent Placé, qui s'est cru bien inspiré de quitter le navire en cours de route. Un plan de carrière qui a connu la même réussite que Bayrou et son modem. En italien, on appelle ça un fiasco. Pendant ce temps, citoyens et associations militent contre le TAFTA, l'accord voué à harmoniser les échanges entre les États-Unis et l'Europe, qui pourrait signifier la fin des réglementations sévères de l'Union au profit des OGM états-uniens. Vous les verrez également à Nantes en train de manifester contre Notre-Dame-des-Landes, ou encore dans pendant des think tanks, en pendant que les grands de la COP21 restent inactifs, ou en train de signer la pétition de Nicolas Hulot. Où en est l'économie politique? Elle va bien, merci, tant que le gouvernement ne s'en occupe pas. Pour preuve, l'affaire ubuesque du purin d'ortie. Pour bien comprendre les tenants et aboutissants de la sinistre guerre des orties, il faut remonter en 2006 quand un horticulteur commet l'irréparable. Il écrit en effet un texte hautement répréhensible. Faucher un kilo d'orties avant qu'il soit monté en graines, puis coupez-les en petits morceaux dans 10 litres d'eau, laisser macérer les orties 3 à 4 jours, puis diluez-les pour les utiliser comme répulsifs. Voilà en substance la recette du purin d'ortie que donne Éric Petiot dans Purin d'ortie et compagnie, la bible des jardiniers du dimanche et des tenants du tout naturel. Pour cette offense, il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Éric Petiot est donc interpellé et son domicile perquisitionné pour avoir fait l'apologie d'une recette de grand-mère. Une mésaventure qu'il doit à la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, dont l'article 70 dispose l'interdiction de vendre et d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans autorisation préalable. A priori, notre purin d'ortie ne devrait pas être concerné par cette loi puisqu'il est entièrement d'origine naturelle, contrairement aux produits évoqués, qui sont chimiques par définition. Mais par une lubie juridique qui s'explique en réalité facilement par la pression des lobbies industriels, les engrais naturels sont associés aux désherbants et autres pesticides hautement polluants. Pour pouvoir faire sa décoction, une seule solution, obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Pour cela, compter de 10 000 à 30 000 euros pour un seul dépôt de dossier et des années d'attente. Une situation qui indigne jardiniers, horticulteurs et au-delà. Aussi est fondée l'association ASPRO-ANPP qui lutte depuis 2009 pour la reconnaissance des pesticides alternatifs. Celle-ci déclenche la guerre des orties où amoureux de la nature et lobbies s'affrontent sans fin à court d'arrêtés, de décrets et autres amendements contradictoires. La lutte acharnée des pro-alternatifs mène finalement, en 2014, Stéphane Le Foll à adopter la loi d'avenir pour l'agriculture. Aussi, une centaine de substances naturelles sont autorisées par arrêté ministériel en 2016. Cela ne satisfait toujours pas les associations qui attendaient la légalisation de plus de 800 espèces. Or, pour ajouter une substance à la liste, celle-ci doit d'abord être analysée par l'Agence de la Santé pour tout effet nocif sur l'humain et l'environnement, un long processus qui prolongera à coup sûr la lutte de quelques années encore. En attendant, l'ortie est reconnue pour sa part comme engrais autorisé. Il aura fallu exactement 10 ans pour pouvoir librement faire une décoction urticaire chez soi. Ouf, la démocratie triomphe, non sans peine.
10 ans pour pouvoir utiliser librement une recette de grand-mère. Augustin Tempier, vous utilisez le purin d'ortie ?
Alors, on en utilise un petit peu, mais pas tant que ça, parce que l'ortie en Provence ne pousse pas si bien. Mais, cela dit, on utilise divers mélanges ou utilisations. On utilise beaucoup de... pas en liquide, mais on utilise beaucoup de broyat, de BRF, le fameux BRF, pour amender nos terres. Donc, on a des bonnes terres, mais on a forcément des endroits qui ne sont pas très fertiles. Donc, on utilise des recettes, en fait, qui s'inspirent de la nature pour amender nos sols, pour se passer d'intrants chimiques ou d'intrants nécessitant de passer par d'autres réseaux dont on a envie de se passer.
Le cadre législatif dont vient nous décrire Myriam est le cas de ce paysan qui utilise le purin d'ortie et qui se retrouve donc devant la justice. Vous, ça vous retient dans l'utilisation comme ça de recettes dites de grand-mère ou pas du tout ?
Pas du tout, absolument pas. On n'a pas envie de s'arrêter dans ce cadre-là. Dans notre cas, on a une utilisation vraiment locale et à très petite échelle. On n'a pas envie de se priver de ça, de ces recettes qui marchent. Et nous sommes, je pense, un bon exemple, comme tous les gens qui l'utilisent, qui plus est qu'on essaie de communiquer dessus et de montrer par photo ou par notre site internet ou à travers les réseaux sociaux qu'on peut l'utiliser, que ça marche et que cet insensé institutionnel n'a pas de sens.
Sylvia Pérez, Victoria, ce cas par rapport au purin d'ortie, c'est l'exemple parfait de cette... destruction des savoir-faire paysans.
Oui, mais surtout, ça s'applique aussi aux semences. Parce que toute l'histoire des industries semencières, ça a été d'empêcher les paysans de produire leurs propres semences. D'être obligés de... Actuellement, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais il faut passer par un catalogue. Et donc, en fait, les paysans, théoriquement, n'ont le droit ni d'échanger, ni de vendre leurs propres semences. Alors que c'est quelque chose qui, traditionnellement, a été fait par les paysans et qui, justement, leur assure l'autonomie. Et donc la mise en place de réseaux de semences paysannes, c'est pratiquement parfois dans, à la limite de la légalité. Et c'est vraisemblablement ce qui nous permettra plus tard d'avoir une nourriture variée et diversifiée. Et donc, même ça, c'est absolument insupportable pour les grandes industries semencières. Et vous imaginez ce qui se passerait si 3 ou 4 groupes multinationaux contrôlent la totalité des semences de la Terre. Donc, il y a vraiment un enjeu très, très important qui se joue autour des semences. Donc, à chaque fois qu'il y a des possibilités de gagner en autonomie, à chaque fois, vous avez l'industrie et les États, parce qu'il faut dire que les États collaborent très largement à ce processus, vont essayer d'empêcher justement les paysans d'avoir leur propre autonomie, de les obliger à passer par le marché.
En préparant cette émission, un ami me disait à ton 21e siècle, paysan, très bien, mais dis-moi un petit peu, j'espère qu'il sera question dans cette émission de savoir comment ce 20e siècle, 21e siècle paysan va pouvoir nourrir le monde. Parce que finalement, il me disait, le projet de cette agriculture industrielle était le projet de nourrir le monde. Alors comment les paysans vont nourrir le monde ? Jean-Christophe Robert, j'imagine que vous avez une réponse à cela, les paysans vont nourrir le monde, alors que c'est le projet de cette agriculture industrielle.
Alors l'agriculture industrielle n'a pas pour vocation de nourrir le monde, mais d'engraisser les actionnaires. Soyons très clairs, hein, c'est un leurre, c'est vraiment une belle supercherie. On nous en fume, voilà, avec des beaux discours qui sont relayés par la majorité de nos ministres de l'agriculture, notamment. On est là uniquement pour faire du pognon. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une agriculture de capitaux. Donc, qui dit agriculture de capitaux veut bien dire ce qu'elle veut dire. Par rapport à la question, effectivement, des purins d'ortie, des échanges de semences et de tout ce qui, quelque part, devient illicite de par des règles qui sont complètement opposés aux fondamentaux du vivant, eh bien, je crois que quand les lois sont quelque part clairement opposées à l'intérêt collectif, il devient non seulement un droit, mais même un devoir de leur désobéir. Et donc, effectivement, le fait de voir des initiatives qui se foutent éperdument du cadre légal s'appuyer sur des éléments de notre patrimoine, les remèdes de grand-mère nous viennent bien de nos grand-mères, ils sont tout à fait légitimes, et donc il me paraît tout à fait légitime aussi d'y avoir recours, voire même de les divulguer, de les partager et de faire en sorte qu'ils redeviennent la norme.
Alors je me permets d'insister encore un petit peu sur ma question. Peut-être que je vais tenter avec vous, Sylvia Pérez-Vitoria, mais bon, il me semble que cette idée du développement est aussi associée à cette idée de la lutte contre la pauvreté. On a fait du projet de développement aussi un projet de la lutte contre la pauvreté et d'une certaine manière, cela s'est fait en disant que les paysans n'étaient pas armés pour lutter contre cette grande pauvreté et lutter contre la faim. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Sylvia Pérez-Victoria ?
Je réponds que précisément, ce sont les politiques de développement qui ont produit la pauvreté. Quand on regarde historiquement ce qui s'est passé dans les pays du Sud, par exemple, c'est la mise en place, c'est la plupart de ces pays, on peut prendre des tas d'exemples. Je prends l'exemple du Mexique, par exemple, le pays qui est à l'origine du maïs, qui produisait son propre maïs, qui est l'alimentation de base de la population. Et ben, c'est en développement, en essayant de le développer, qu'on a produit la pauvreté, qu'on a produit 1,5 million de paysans qui ont dû émigrer parce qu'ils n'ont pas pu continuer à travailler. Donc c'est le développement qui produit la pauvreté et non pas l'inverse. Voilà. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Et en fait, effectivement, la meilleure preuve que l'agriculture industrielle n'est pas faite pour nourrir, c'est que si, par exemple, on peut utiliser du blé et du maïs pour faire des agrocarburants, on n'hésitera pas. On n'hésitera pas parce que ça fait de l'argent. C'est tout. C'est plus rentable de faire de l'argent. Ce n'est pas le cas, mais c'est extrêmement subventionné. Mais si on peut produire, faire de l'argent avec du blé et du maïs en faisant des agrocarburants, c'est bien plus intéressant que d'aller nourrir des gens. Alors, d'autre part, les 2/3 des gens qui ne mangent pas leur faim, c'est des paysans dans le monde. C'est en milieu rural. Donc, la meilleure manière, c'est de leur permettre de produire leur alimentation, donc de permettre aux paysans de vivre. Donc, c'est là qu'est l'enjeu vraiment de la faim dans le monde, et pas du tout non, ce qu'on nous raconte.
Non seulement pouvoir produire leur alimentation, mais pouvoir aussi transformer, en fait, leur production, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui leur est aujourd'hui retiré.
Absolument, si vous voulez. On est face à un énorme système agroalimentaire extrêmement concentré qui détermine les prix partout, qui détermine y compris il y a des stratégies alimentaires, ce qu'on appelle la transition nutritionnelle, pour penser comment les gens doivent se nourrir dans le monde, c'est-à-dire en utilisant le maximum un certain nombre de produits clés qui sont rentables, et détruire les alimentations locales, les nourritures locales, les traditions locales, etc. Donc on est vraiment dans un processus d'appauvrissement qui est dû au développement, précisément.
Jean-Christophe Robert, avec Filière Paysanne, disait qu'il tentait avec la métropole de négocier des plans de sauvegarde des terres agricoles et d'autres projets, notamment la question de la souveraineté alimentaire locale. Avant l'interlude musical, Sylvia Pérez-Vitoria, je disais qu'il y a des mouvements comme les mouvements des sans-terres, comme les apatistes, qui, eux, ont agi à l'endroit d'une dissidence territoriale. Pourquoi ?
Mais ce sont des populations qui se trouvaient sans moyens, sans aucun moyen, soit d'accès à la terre, soit ils étaient réprimés, etc. Et donc ils ont construit au cours du temps, il faut se rendre compte que ça a mis du temps, ça a mis 10 ans, 20 ans, et ils ont construit sur des territoires des sociétés dont le fondement est d'abord l'agriculture. Et autour de l'agriculture, c'est ça qui est intéressant, autour de l'agriculture, il y a eu un système d'enseignement, il y a eu un système médical de santé, il y a eu un système de justice. Ce sont deux exemples. Moi, j'ai pris ces deux exemples parce que je les connais et que je pense qu'il faut parler que de ce qu'on connaît, parce que souvent, sinon, on peut faire des erreurs. Mais c'est intéressant de voir que alors, c'est pas du tout des territoires homogènes, c'est pas un bloc, c'est pas du tout des territoires fermés, ce sont des gens qui sont ouverts au monde, donc c'est pas du tout non plus une espèce de petite, une petite solution fermée, etc. Au contraire, ils sont très ouverts, ils font venir les gens. Le mouvement des sans-terres est très actif pour aider, ils sont actifs au sein de Via Campesina, mais ils sont aussi actifs pour aider des mouvements paysans dans le monde. Et donc, ce sont deux exemples de montrer que des gens qui, au départ, n'avaient rien du tout, ont pu reconstruire par des luttes, ont pu acquérir un territoire, s'approprier un territoire et en faire quelque chose et y vivre dignement. Et ça me paraît... Voilà. Alors, nous, on doit trouver notre chemin. Enfin, je ne dis pas... Ce n'est pas des modèles. Hein.
Mais ce qu'on entend, c'est que c'est aussi toute une organisation sociale, en fait, qui prend naissance là, des formes de vie nouvelles. Du coup, j'ai assez envie de poser la question à Augustin Tempier par rapport au projet Terre de Mars, parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas seul, c'est tout un collectif, vous êtes nombreux, vous impliquez aussi, je crois, les habitants du quartier dans ce projet des 11 hectares. Est-ce que se dessine là, autour de ce projet de cultiver la terre, se dessine là aussi une organisation sociale particulière?
Oui, alors déjà, au sein de notre équipe, donc on est 5, nous sommes des amis aux compétences assez similaires, mais avec des envies personnelles très différentes, comme le paysage, la cuisine, la pédagogie, l'envie de transmettre et de apprendre à d'autres personnes un savoir, les savoir-faire anciens paysans dont on parlait, dont on s'inspire, dont on a tous connaissance par nos grands-parents ou des aïeux. Et puis aussi, donc, c'est nous cinq, au sein du quartier de Sainte-Marthe, qu'on a envie de fédérer un maximum les acteurs, tous les acteurs du quartier. C'est ainsi qu'on essaie de travailler dans l'ultra-local, c'est-à-dire que notre fumier, on va le chercher dans la Bastide qui est à côté, ou à la ferme pédagogique qui est en bas. On va distribuer nos produits sur Sainte-Marthe également. On va essayer de montrer aux gens qu'on est là, parce que c'est vrai que souvent, quand on est producteur, on n'est pas visible. Et on pense que c'est vraiment en arrivant à fédérer un maximum d'acteurs locaux, y compris une grosse société qui est Ricard, qui a des racines très ancrées localement à Sainte-Marthe, qui a des valeurs paternaliste et territoriale assez forte, qu'on espère arriver à montrer que le quartier entier a un poids qui peut faire face en quelque sorte à la ville de Marseille et du coup peser plus qu'une seule personne isolée.
Je disais agriculture urbaine. Agriculture urbaine, selon vous, vous reprendriez ce terme de là où vous êtes, Terre de Marthe, de l'agriculture urbaine. En même temps, Sainte-Marthe, on est quand même là où vous êtes. On est tout de même un peu en dehors de la ville.
Oui, exactement. On est dans un milieu naturel, beaucoup plus qu'urbain. En revanche, d'un point de vue urbain à Marseille, on est dans un des 106 quartiers de Marseille. On est dans le quartier de Sainte-Marthe. Donc, et puis, on a une proximité entre la ville et la campagne qui est extrêmement proche du fait que l'urbanisation a été stoppée très franchement au pied du quartier. Donc, en soi, on est un quartier de Marseille à part entière qui véhicule une culture extrêmement locale à part entière. Et on s'inscrit vraiment dans la ville de fait de cette proximité très forte et très prenante que l'on a à Sainte-Marthe.
Jean-Christophe Robert, avec Filière Paysanne, vous avez mis en place les épiceries paysannes. Est-ce que là aussi, ces épiceries paysannes, c'est un autre modèle d'organisation coopérative, une autre, voilà. Est-ce que c'est une organisation autre que se met en place avec ces épiceries paysannes, par exemple ?
Bah en fait, on retrouve un peu le modèle de la petite épicerie de quartier.
Telle qu'elle existait.
Oui, tout à fait, telle qu'elle existait, c'est-à-dire le commerce de proximité qui crée du lien, qui permet de pouvoir accéder au quotidien à tous les produits de l'alimentation locale. Et les formes juridiques sont diverses. Il y en a qui sont de forme associative, il y en a qui sont sous forme de SCOP, donc société coopérative de production. Il y en a même qui sont en projet sous forme de société classique, SARL, il pourrait y avoir des entreprises individuelles. En fait, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse et que l'ivresse soit locale.
Et il y en a déjà trois. Hein, c'est cela ?
Oui. Je voudrais rajouter une petite chose, si vous permettez, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que l'agriculture, autre que industrielle, est en capacité de nourrir la planète ? Eh bien, une réponse qui est très claire, c'est celle de Monsieur de Schutter, qui est l'ex-rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Il faut prendre son élan. Donc, lui, qui est vraiment du côté, on va dire, des structures officielles, hein, là, c'est carrément l'ONU, donc c'est vraiment les gens qui ont légitimité à s'exprimer, dit clairement que seule une agriculture, une agroécologie, en fait, une agriculture de type agroécologique familiale, est en capacité de nourrir la majorité des habitants sur cette planète qui n'ont pas accès à une économie de marché, et notamment à une agriculture marchande.
On aura peut-être l'occasion de nous retrouver pour aussi lever peut-être des formes de pièges dans ces notions d'agriculture familiale ou par exemple de la notion de consommateur ou d'agriculture urbaine. Même si effectivement on y voit là des chemins possibles, en même temps, du fait qu'ils soient sans doute encouragés par des institutions comme celle-ci, il faut peut-être essayer de voir en quoi il y a des pièges. Sylvia Pérez-Victoria, vous y avez vu quelques pièges ?
Oui, mais je crois qu'on va pas. ça ferait vraiment l'objet d'un débat.
D'une émission à part entière, mais
d'une émission
peut-être
à part
quelques
entière.
Mots sur le fait qu'ils viennent de ces que ces institutions-là les légitiment et les encouragent. Elles y vont aussi avec un intérêt.
Pas de Schutter en l'occurrence, parce qu'effectivement, il a beaucoup travaillé avec les mouvements paysans et donc il a bien pris conscience de l'importance que ça pouvait avoir. Mais il y a effectivement, je pense, des tentatives de la part des institutions, notamment, par exemple, dans le cas de la France sur l'agroécologie, de la part du gouvernement français, de transformer l'agroécologie en un espèce de catalogue de recettes agronomiques, ce que ça n'est absolument pas, puisqu'il y a toutes les dimensions sociales, politiques qui ne sont pas prises en compte. Moi, j'ai des craintes sur l'agriculture urbaine également du fait que, tout le monde, c'est une espèce de mode, on se transforme en paysan, qu'est-ce que c'est drôle, etc. Mais on oublie les enjeux fondamentaux qui se jouent au niveau de l'agriculture. Donc voilà, par exemple. Donc effectivement, il faut faire attention.
Cela dit, là où vous pointez quelque chose aussi qui est un joli retournement sur la question de l'agriculture urbaine, c'est peut-être une question aussi pour Augustin Tempier, c'est qu'au fond, vous nous dites, l'agriculture urbaine, c'est pas tant la question de l'agriculture que la question de la ville, c'est peut-être à travers l'agriculture urbaine que se réinvente la question de la ville. Et là, on fait le lien avec votre métier de paysagiste, Augustin Tempier. Est-ce qu'au fond, c'est pas la ville qui est en train de se réinventer à Sainte-Marthe plus ou davantage que l'agriculture ?
Oui, complètement. Et puis, nous, quand même, on est plus une génération d'urbains qu'une génération de ruraux. Et ce que vient chercher la ville à Sainte-Marthe, parce que c'est là où il reste un peu de campagne, c'est vraiment ce besoin fondamental de campagne qu'on a ici à 5 km. On a fait 5 km ici de la Friche de la Belle de Mai à Sainte-Marthe. C'est-à-dire que, pour revenir à la question de tout à l'heure, oui, on est dans la ville et la ville a besoin de la campagne et la campagne a besoin de la ville.
Alors nous sommes à la ville, mais Anna, là tu as profité du marché, du grand marché ici aux grandes tables pour trouver des produits de la campagne. Qu'est-ce que tu nous as apporté au plateau ?
Alors effectivement, je suis allée à la recherche de quelques légumes ou aromates atypiques que l'on ne croise pas forcément de partout. Alors je vous présente le concombre du Sikkim. Donc le Sikkim, ça appartient à la chaîne d'Himalaya, mais en fait c'est cultivé dans la Creuse, donc tout à côté. Et c'est le mas de granier qui le propose, qui est situé à Saint-Martin-de-Croix. Donc il a un aspect original, une peau marron dorée, striée de traits beige. Et c'est une chair très ferme, on peut l'utiliser par exemple dans les smoothies ou encore en faire des soupes. On a du pourpier qui vient directement du mas des Gorguettes, donc de Augustin Tempier et de chez Augustin Tempier de l'association Terre de Mars. Donc ça a un petit goût acidulé et là on peut plus peut-être l'associer à un aromate. Ça peut agrémenter les salades.
Vous le reconnaissez, Augustin, votre
oui. pourpier.
Bien
votre
sûr. Pourpier. Je l'ai ramassé moi-même en plus il y a à peu près 3 heures de ça. Donc oui, je sais même où est-ce qu'il a poussé.
Et nous retrouvons encore des produits de chez Terre de Mars, qui est le haricot beurre. Donc c'est un haricot qui a une couleur jaune, contrairement au haricot classique. Et il peut se manger aussi bien cru que cuit. Voilà, et enfin, un peu plus classique, mais on peut les connaître, mais pas forcément, les bâtonnets de réglisse. Donc des bâtonnets que l'on mâchouille, qui viennent aussi de chez Terre de Mars et qui permettent de parfumer. Et aussi, on revient un petit peu à une culture très locale, qui est donc le pastis. Et pour que l'appellation pastis soit autorisée, il faut 2 ingrédients nécessaires, l'anis étoilé et la réglisse.
Jean-Christophe Robert, ces haricots blancs, ce pourpier, on pourra sans doute les trouver prochainement dans les cantines marseillaises.
Alors ben là, il faut en parler à Plateforme Paysanne Locale hein, qu'on a mis en place pour pouvoir approvisionner notamment les cantines. Malheureusement, les cantines marseillaises aujourd'hui sont quand même, je crois qu'il y en a 440 et elles sont toutes alimentées par la Sodexo. Et donc, il n'est pas facile pour des petites structures telles que les nôtres de travailler avec la Sodexo. Mais cela dit, comme on n'est pas fermé non plus, si jamais ils veulent bosser avec nous, on sera sympa, on leur apportera quand même quelques produits et peut-être du pourpier pour les minots de nos écoles.
Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci Sylvia Pérez-Vitoria. Je rappelle, vous êtes sociologue, économiste et documentariste. Vous avez réalisé un certain nombre de films sur les questions agricoles et paysannes aux États-Unis, en Espagne, en France, au Mexique, en Roumanie, en Érythrée, au Nicaragua et ainsi de suite. Mais c'est vous dire, voilà, c'est dire le tour du monde que vous avez fait sur ces questions. Et puis je rappelle ce livre Manifeste pour un 21e siècle paysan aux éditions Actes Sud, et puis Les paysans sont de retour également aux éditions Actes Sud. Le site de Filière Paysanne, Jean-Christophe Robert.
Donc vous faites Filière Paysanne au singulier, il n'y a pas de S, et vous tombez direct sur notre blog.
Et puis si vous voulez un petit peu eh bien, vous aussi vous mettre à l'agriculture, vous pouvez toujours aller taper à la porte de Terre de Mars. Vous avez un site
www.terredemars.fr.
Merci beaucoup Augustin Tempier, merci Jean-Christophe Robert, merci à Sébastien pour la réalisation de cette émission, à Myriam et Anna pour la participation à cette émission. Les grandes tables, les 10 ans, ça continue et Radio Grenouille continuera évidemment à revenir sur ces 10 ans et à traiter de poser ces questions-là de comment on s'alimente aujourd'hui et comment on produit nos aliments, comment on les met en circulation, comment on cuisine aussi. On aurait pu parler de la cuisine, là aussi c'est un vrai enjeu. Merci à vous tous et à bientôt sur les ondes de Radio Grenouille 88.8.